France Musique.
Ce matin, une grande violoncelliste qui aime les expériences. Bonjour Sonia Vider-Atherton.
Bonjour.
Nouvelle expérience ce week-end, samedi, une nuit blanche avec deux événements. On va d'abord parler du principal. Ça se passe à la Philharmonie de Paris. C'est un projet que vous avez déjà mené, mais là, vous poussez sinon les murs de la Philharmonie, en tout cas le temps. Je voudrais d'abord savoir, vous avez déjà participé à des nuits blanches?
J'ai déjà participé, mais pas sur une longueur de toute une nuit. C'est la première fois.
C'est quoi pour vous ces nuits blanches parisiennes qui maintenant, d'ailleurs, ont lieu un peu partout dans le monde?
Oui, c'est un événement très particulier que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois être avec le monde et à la fois être seul. Parce qu'on est dans une déambulation où on va, là où on, selon le son qui vous attire, l'événement qui vous attire, tout d'un coup un petit chemin où il n'y a personne et puis... Il y a cette espèce de chose qui est, vous savez, comme un film de Godard ou dans ses premiers films. Il y a quelque chose de la nuit. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de oh, faut se lever demain. Il y a cette liberté-là. Et tout le temps, le regard, les oreilles qui sont appelées par ici, par là. Et on est donc entre la foule et cette espèce d'anonymat libre.
Samedi à la Philharmonie de Paris, Sonia Vider-Atherton, vous n'allez pas dormir car vous veillez. Toute la nuit avec cette odyssée, c'est un spectacle que vous avez déjà donné, mais là qui est adapté à cet événement de la nuit blanche.
Oui, on va dire que c'est une escale, parce que les odyssées, c'est comme un fil que je tire depuis quelques années et qui me suit, avec lequel je voyage. C'est un voyage en fait. C'est
de quoi s'agit-il concrètement?
Concrètement, c'est un personnage,
terre à terre.
Voilà, qui est une violoncelliste, qui est seule face aux éléments, comme une tragédie grecque où vous imaginez un personnage sur une montagne entouré d'un petit rond qui signifie que c'est une sorte de scène. Et il y a la mer, il y a le vent, il y a le tonnerre, il y a les vagues. Tout ça fait partie de cet univers sonore. Et avec ces sons-là, qui sont en fait mon orchestre, je raconte l'histoire, on peut dire l'histoire d'une vie ou l'histoire de tout ce qui peut traverser une personne depuis le début de sa vie jusqu'à un au revoir qui pourrait être un au revoir à quelqu'un, à tout ce qu'on veut. Et donc ce sont des aventures et je joue donc des chants traditionnels qui sont extraordinairement beaux, que j'ai adaptés pour le violoncelle, mais il y a aussi du Granados, du Prokofiev, du Schumann, du Bach, du Bellini et du Kravzik, du Apergis. Donc c'est vraiment une traversée. Et cette escale-là, la Philharmonie, elle me permet de partager avec les gens qui seront là ce voyage que j'ai fait avec des gens totalement différents. C'est comme si j'avais planté ma tente, l'Odyssée, avec, par exemple, des jeunes à Athènes qui étaient pour la plupart d'un camp de réfugiés. Une autre fois, c'était avec la grande Giovanna Marini. Une autre fois, c'était avec Aaron Appelfeld. Une autre fois, c'était avec 15 femmes qui viennent de partout, de beaucoup de pays, et qui se sont réunies autour de cette odyssée qui les a fait parler, remonter dans leur mémoire, chanter. Et tout ça, ce sont des habitants de l'odyssée. Et c'est tout ça que je vais partager samedi.
Une violoncelliste donc qui joue pendant 9 heures, une bande son, et puis un échange aussi avec les spectateurs, les gens qui entrent ou qui vont sortir d'ailleurs dans cette salle.
Oui, alors c'est l'inconnu ça pour moi, et je le prends comme tel, c'est-à-dire que j'essaye pas de me représenter ce que ça peut être. J'essaye de pas me dire soit il y aura du passage, donc il faut que j'essaye de laisser totalement ouvert. Je me dis c'est comme un voyage dans une voiture décapotable. Il y a des moments où on aura les cheveux dans les yeux, où on n'entend rien, où on est pris dans un tumulte, et il y aura des moments, je suis sûre, extraordinaires de choses que je veux pas mettre de mots. C'est ça mon exercice, c'est de me dire on verra.
Il faudra donc venir samedi, ça commence à 21h, à la Philharmonie de Paris, dans la salle
des concerts,
la
côté
salle des concerts,
Cité de la Musique.
Qu'on a appelé pendant un temps Philharmonie 2.
Voilà.
Et puis donc, au et gré de cette coureurs, traversée voilà. Coureurs, on peut marcher ou non, il faut non, courir.
Non, je crois que les coureurs vont devenir marcheurs l'espace de ces minutes-là.
À l'UNESCO, donc, avec cette installation sonore. Merci, bonne nuit blanche, Sonia Vidar-Carton. Et rendez-vous, donc, samedi dès 21h, ou plus tard, on peut arriver bien plus tard aussi.
On peut arriver, et surtout, plus proche de vers... De moi, 4, j'aimerais bien voir heures. Des gens arriver, voilà, venez... Vers 4h, 5h, on aura besoin de vous.
Extrait de cette bande-son de l'Odyssée, on a choisi quel moment ?
Le moment du récit qui est la deuxième aventure de l'Odyssée et qui sera aussi à l'UNESCO comme une petite étincelle qui s'est échappée et qui est arrivée là.
Merci.
בכפר אין שטיחים, רק מחצלות. אפילו בחדר האורחים פרוסה המחצלת. בנגועה רגל במחצלת, ומשמיעה רחש יבש. אמא יושבת לידי, ומוותרת אבטיח.
D'être calme.
Dansez-vous?
Demandez-vous.
Je demande. Qu'est-ce que vous faites ici? Dansez-vous? Je demande. Demandez-vous.
Extrait de l'Odyssée de Sonia Vidar-Carton à retrouver samedi jusqu'à dimanche matin, toute la nuit, nuit blanche à la Philharmonie de Paris.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Notre invité ce matin apporte un peu de parfum de Quercy sur France Musique. Bonjour Jean-Marc Andrieux.
Bonjour.
Une nouvelle édition de votre festival Passion Baroque ouvre samedi. Un nouveau disque de votre ensemble Les Passions Orchestre Baroque de Montauban vient de paraître. Que de passion, Jean-Marc Andrieux. Pourquoi vous avez choisi ce mot dans votre activité musicale?
Oui, effectivement, en 2003, je crois, on a rebaptisé l'orchestre. C'est un mot qui m'est venu tout naturellement à l'esprit. En fait, plusieurs sens. Les passions de l'âme, le traité de Descartes qui a, pardon, influencé toute la musique baroque dans toute la période. Donc, ce traité des passions qui explique comment la musique influe sur les sentiments. On est passionné aussi, et puis on aime bien aussi les passions de Bach. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on a choisi ce nom.
Mais la passion, parfois, c'est la souffrance, vous ne souffrez pas.
La passion, ça peut avoir effectivement ce sens-là, et quelquefois, la musique peut exprimer la souffrance. Mais bon, on essaye d'éviter quand même.
Allez, voici un premier extrait de votre nouveau disque, La douleur d'une mère au pied de la croix. C'est le Stabat Mater de Pergolèse qui commence ainsi. Thank you. Stabat Mater Dolorosa, le début du Stabat Mater de Pergolèse, Magali Léger, Paulin Bungen, Les Passions dirigées par vous, Jean-Marc Andrieux, extrait de votre dernier disque qui vient de paraître chez Ligia Digital. On y trouve également Alessandro Scarlatti, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord cette œuvre-là que tout le monde connaît, le Stabat Mater de Pergolèse, œuvre, ai-je lu dans votre livret très érudit, la plus imprimée du XVIIIe siècle, Jean-Sébastien Bach, on a fait une transcription. Ici, on l'entend de façon pas forcément très habituelle. En tout cas, l'orchestre n'est pas très fourni.
Non, un seul par partie.
Voilà,
c'est un choix de confidentialité, en fait, pour essayer de rendre cette musique un peu plus proche de l'auditeur. De façon qu'il ait l'impression que les musiciens et les chanteurs s'expriment seulement pour lui tout seul, pour une accessibilité affective.
De la musique sacrée de chambre.
On peut le dire, oui. Oui.
Vous avez lu le manuscrit original de ce Stabat Mater ?
Non seulement lu, mais épluché dans tous les sens, regardé à la loupe et bien observé pour essayer de retrouver un peu l'esprit de Pergolèse. On a la chance d'avoir une partition originale, hein, c'est quand même rare. Hein,
Elle s'est trouvée où ?
À Monte Cassino, dans l'abbaye de Monte Cassino, donc évidemment dans le sud de l'Italie, où elle a atterri là par miracle, parce que souvent il y a eu des catastrophes qui ont fait disparaître les partitions. Et donc il y a un facsimilé, une édition facsimilé de cette partition qui est éditée aux États-Unis. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce document, en fait, pour essayer de remettre à plat surtout la notion des nuances, des plans sonores, qui a été un peu transformé au 19e siècle par des crescendo et des décrescendo, des nuances qui n'existaient pas à l'origine.
Il y a des mauvaises habitudes dans l'interprétation de cette musique, selon vous ? On connaît grandes versions très romantiques.
Bien sûr, bien sûr. Alors, il ne faut pas dire mauvaises. Il n'y a pas de... Je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit bon ou mauvais, hein, c'est question de goût. Mais disons que notre principe à nous, c'est d'essayer de retrouver un peu ce que Pergolèse avait imaginé. C'est peut-être un peu ambitieux, mais on essaye, en tout cas.
Jean-Marc Andrieux, je veux dire un mot affreux, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est un tube baroque. Vous avez plutôt l'habitude d'aller vers des chemins
oui.
de traverse,
non, c'est
de
vrai.
Faire découvrir des compositeurs. Là, vous vous attaquez au Stabat Mater de Pergolèse.
Alors, le but, c'était pas le but de ce projet-là, c'était avec Magali Léger et Paulin Bungen, dont on a décidé de donner cette œuvre en concert plusieurs fois, et on a eu tellement de plaisir à chaque fois à se retrouver, à faire cette belle musique ensemble, qu'on a décidé de la garder gravée pour l'éternité, on va dire.
Et enregistrée dans la belle abbaye de Sylvanès.
Abbaye de Sylvanès, que je remercie pour son accueil. Oui.
Pergolèse, le Stabat Mater, et puis le Salve Regina d'Alessandro Scarlatti. Pourquoi coupler les deux ? Il y a un lien, vous parlez de filiation.
Oui, il y a une filiation. On se demande, même certains musicologues pensent qu'il y a une influence de Scarlatti sur Pergolèse. Il faut savoir que le fameux Stabat Mater de Pergolèse a remplacé celui de Scarlatti qui était joué dans l'abbaye à l'époque. Et on pense qu'il a pu s'inspirer effectivement de ce Salve Regina. Même tonalité, les mêmes effets, les mêmes formules rythmiques, beaucoup de filiations qui, effectivement, sont assez troublantes.
Deux grandes œuvres sacrées, Stabat Mater et Salve Regina, Jean-Marc Andrieux, sur ce disque Ligia, et puis, au milieu, un interlude musical et une découverte. Là, on vous retrouve à aller défricher des choses inédites. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors, il s'agit d'un manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale, que j'avais déjà exploré, puisque c'est trois symphonias. Il s'agit de trois symphonias pour cordes.
D'Alessandro Scarlatti.
Alessandro Scarlatti. Donc, c'est vraisemblablement des copies postérieures, mais c'est sûr que c'est de Scarlatti. Il s'agit donc de pièces purement instrumentales, et c'est trois, on va dire, pratiquement des quatuors à cordes, c'est un peu l'ancêtre du quatuor à cordes. Sur la partition, il y a marqué Senza cembalo alta volino. En italien, ça veut dire sans clavecin, alta volino, à la petite table, à la table. Alors, soit ça veut dire que le compositeur l'a écrit sans l'aide du clavecin et à sa table, ou qu'on peut le jouer entre amis autour d'une table. Voilà, donc on n'a pas l'explication. Et ce sont des pièces, je pense, inédites.
Bah, à la table de notre studio de Transmusique, oui. On en écoute un extrait.
Oui, si vous voulez.
Donc, sans doute inédit à la radio aussi. La fin de cette Sinfonia 4 en fa mineur, manuscrit conservé, vous le disiez, Jean-Marc Andrieux, à la Bibliothèque nationale de France, Alessandro Scarlatti, Les Passions, l'orchestre baroque de Montauban que vous dirigez. Quand on est à la Bibliothèque nationale de France, qu'on a cette partition, qu'on la touche pour la première fois comme ça, quelle émotion ressent-on ?
Oh ben, c'est toujours difficile à expliquer. Je dois avouer qu'il y a une petite excitation à se retrouver avec des pièces qui dorment et qui attendent qu'on les restitue. Voilà. Et bon, après, c'est le fruit de plusieurs recherches, souvent infructueuses aussi. On tombe souvent sur des partitions qui ne valent pas la peine d'être restituées. En tout cas, je pense que c'est là le mérite.
Tout n'est pas bon, c'est pas la peine de tout jouer et enregistrer.
Exactement.
Même quand ça sort de
ça, c'est difficile. Ça, c'est une des grandes difficultés des interprètes actuels. Quand on se retrouve avec une partition ancienne, est-ce qu'elle vaut le coup d'être... Bon, il n'y a pas que de la musique géniale, il faut quand même l'avouer.
Des passions pour la découverte de partitions inédites. Jean-Marc Andrieux, Des Passions, c'est aussi un festival. Il commence samedi à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, samedi jusqu'au 13 octobre. Comment il est né ce festival ? C'était quoi votre désir, votre envie ?
En 2011, ça a démarré. Nous avons eu envie de créer un événement dans notre région. Je pense qu'il y avait un petit déficit en festival dédié à la musique ancienne dans le Grand Sud-Ouest. Donc on a commencé, avec l'aide de la ville, de mettre en place un événement pour le début qui était tous les deux ans et puis qui va devenir annuel maintenant.
Donc qui prend de l'ampleur.
C'est un rendez-vous qui commence à être bien repéré par tous nos amis.
C'est quoi l'esprit de ces passions baroques de Montauban ?
L'esprit, alors, je tiens d'abord à faire découvrir à tout le public, je sais pas, le plus loin possible, la ville de Montauban, qui est quand même une belle ville, avec un beau patrimoine architectural, le musée Ingres Bourdelle, qui va bientôt réouvrir, de très beaux immeubles. Il faut savoir aussi que c'est la ville natale de Louis de Cahuzac, qui était l'un des principaux librettistes de Rameau. Donc montalbaniste célèbre. Et donc je voulais aussi faire découvrir des belles musiques. Cette année le thème du festival c'est les baroques du monde. L'idée c'est de faire entendre ce qui se passait un peu sur notre planète au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, donc de belles découvertes, notamment, enfin, on va peut-être en reparler, mais de la chanteuse de chant traditionnel coréen qui est née au XVIIe siècle. Et je suis vraiment très heureux de découvrir la musique qui se passait en Corée au moment de la musique baroque en Europe. Voilà.
Jean-Marc Andrieux, vous dirigez aussi le conservatoire de Montauban depuis longtemps. Ce conservatoire participe-t-il à ces passions baroques et les élèves, enfants sont-ils conviés à un festival de musique ancienne comme
bien
celui-ci
sûr. Oui, oui, ils vont participer à la fête. On va inviter Tosca Rousseau, qui est une jeune soprano très talentueuse que j'ai tenu à inviter au festival et qui fera un moment important de rencontre avec nos enfants des classes réaménagées voix, donc les fameux CHAM. Donc elle aura un moment avec eux de discussion. Et puis la classe de clavecin profitera des talents d'Ivan Garcia, claveciniste, pour une masterclass sur la basse continue.
Des actions pédagogiques, culturelles, tout au long du festival, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça ?
C'est important, ça tient à cœur, je pense, à beaucoup d'entre nous. Et effectivement, il ne faut pas faire l'économie de rencontrer les enfants. C'est à ce moment-là qu'ils doivent découvrir les belles choses et puis s'en souvenir dans leur vie d'adulte, garder ce contact avec la culture, quelle qu'elle soit. Donc effectivement, on a aussi tenu à diversifier le public scolaire, donc les primaires, le collège, et il y aura aussi une rencontre avec les élèves du lycée Michelet à Montauban, avec Léonore de Recondo, qui est violoniste, et puis la magnifique écrivain que nous connaissons.
Jean-Marc Andrieux, Passion Baroque, c'est un festival qui démarre samedi jusqu'au 13 octobre. Est-ce qu'il y a cette année votre cher Jean Gilles?
Non. Il n'y sera pas, le pauvre.
Il est sur France Musique ce matin.
On y reviendra.
Solis, 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 Sol
J'essaie de le prononcer comme eux, Quoniam tu solus sanctus, extrait de la messe en ré majeur de Jean-Gilles. Les éléments, l'ensemble toulousain, c'est la banlieue de Toulouse, c'est la banlieue de Montauban, Toulouse, vous me disiez. Les éléments de Joël Subiette, les passions, l'orchestre baroque de Montauban, dirigé par vous, Jean-Marc Andrieux. Pourquoi sanctus et pas sanctus? Pourquoi Jésus et pas Jésus?
C'est la prononciation du latin à la française, hein, de la liturgie gallicane, qui date de, je sais pas, je pense même fin de la Renaissance, déjà on prononçait, et ça a duré jusqu'au début du XXe siècle, hein, dans les églises encore en France, début XXe, on prononçait le latin à la française, avec les U au lieu de OU.
Jean-Gilles, c'est... La grande découverte de votre vie.
C'est notre compositeur fétiche, effectivement, qui est né à Tarascon en Provence et puis qui a terminé prématurément sa belle carrière à Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne. Effectivement, j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à découvrir et faire découvrir ce magnifique compositeur.
Comment il est né ce goût pour la découverte de partitions rares au début? Comment ça vous est venu, Jean-Marc Andrieux?
Alors, je dois rendre hommage à un ami disparu récemment, Jean-Christophe Maillard, musicologue qui nous a quittés voilà 2 ans maintenant. C'est grâce à lui que c'est lui qui a attiré mon attention sur toutes ces belles partitions et qui m'a donné le goût de la découverte. Donc, je voudrais dédier cette émission à la mémoire de Jean-Christophe Maillard.
Esprit Antoine Blanchard aussi, un compositeur oui. que vous avez,
oui, effectivement,
vous avez participé à sa découverte.
En fait, vous avez remarqué que c'est souvent des compositeurs du sud de la France. C'est ça qui m'intéresse, de voir un petit peu ce style français méridional qui est quand même assez spécifique. Et qui,
c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans le style?
Un naturel de la mélodie, bon, peut-être que de Lalande aussi finalement, hein, de Lully aussi a une mélodie naturelle, mais il y a des tournures mélodiques, je trouve, propres. Et peut-être presque italianisante dans le sud de la France. On va trouver ça aussi, j'anticipe un peu sur l'actualité, mais on va redonner l'opéra d'Affine Simadur de Mondonville, et ce compositeur-là a un peu mis tout le monde d'accord, au moins de la querelle des bouffons, avec de la musique d'essence languedocienne, et cette dispute-là entre le style français et le style italien s'est un peu calmé avec cet opéra qui a fait la synthèse des deux.
Vous trouvez qu'il y a un certain mépris parfois pour les compositeurs de province?
Ah, mais pas que pour les compositeurs, pour les... Non, je vais pas faire ma crise de paranoïa, mais effectivement, il y a un petit... Oh, mépris, c'est un mot un peu fort.
Et mais que ceux qui ont été à Versailles,
une condescendance, siècle, voilà, ouais. Oui, effectivement. Mais de toute façon, à l'époque, le but, c'était de monter à Paris, comme peut-être même comme maintenant encore. Hein. Et bon, on est en France, hein. Il y a quand même un centralisme culturel.
Vous êtes bien à Montauban?
Bien sûr qu'on est bien, bien sûr. En tout cas, je vous remercie de votre invitation.
Bah, c'est un plaisir. Passion baroque, ça commence samedi. C'est jusqu'au 13 octobre. Et puis ce disque Pergolèse Scarlatti dont on parlait chez Ligia. Et puis un peu plus tard, le Mexique. Qu'est-ce que vous allez faire au Mexique?
Une tournée de concert. Une tournée de concert avec l'Institut français et tous nos partenaires qui nous aident à faire ce voyage. On va donner 5 ou 6 concerts, des masterclass un peu partout au Mexique. Bon, je vais peut-être pas citer les endroits parce que les
noms. On nous écoute sur francemusique.fr au Mexique aussi, mais voilà, on retrouvera en tout cas sur le site.
Sur le site les-passions.fr, vous pourrez suivre notre tournée au Mexique du 26 octobre au 2 novembre.
Baroque du monde entier dans ce festival à Montauban, Passion Baroque. Vous parliez de musique chinoise. Vous aviez enregistré, c'est avec cette musique qu'on va se quitter, vous aviez enregistré de la musique traditionnelle de Mongolie. C'était quoi ce projet?
Alors, c'était un projet avec des musiciens asiatiques. Avec 3 musiciens,
mais aussi avec les
un chanteur. Oui, on était 4 musiciens des passions. Mandahai, qui est un chanteur traditionnel de Mongolie, effectivement, qui chante le chant diphonique de Mongolie. Nanjian, qui est une virtuose de la sitar chinoise, le Gujian. Cheng et Yi Ping, qui est une percussionniste taïwanaise. Donc on a fait une rencontre formidable avec ces musiciens asiatiques.
On a commencé en Italie et à Montauban, on se quitte en Mongolie. Merci Jean-Marc Andrieux.
C'est moi qui vous remercie.
Bon festival Passion Baroque, ça commence samedi à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, Montauban dont Toulouse est la banlieue donc. Presque dans un western dans les steppes yak noirs, musique traditionnelle de Mongolie, Les Passions dirigées par Jean-Marc Andrieux.
À réécouter sur francemusique.fr.